Rhapsody. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Parodienne Rhapsody. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film que vous connaissez sûrement parfaitement bien. Et c'est pour cela que j'ai choisi d'y consacrer un épisode. En effet, les films OSS 117 de Hazanavicius, à ne pas confondre avec la saga OSS 117 des années 60 réalisée par André Unbel, ont été, dans les années 2000, des films cultes au point qu'ils sont encore aujourd'hui vus, revus, rediffusés et réexploités, notamment quand on s'adresse à la génération des 18-35 ans. C'est ainsi avec Kaamelott, probablement une des œuvres parodiques majeures, qui connut un succès populaire dans ses 20 dernières années, en opposition complète avec la norme des comédies autour du réel qui continue de faire un carton en France. Il va être d'autant plus intéressant de voir, à l'intérieur du parcours que je vous propose depuis maintenant 18 épisodes, comment la parodie a pu ou non participer à faire de ce film un film culte. Pour cela, il faudra bien sûr passer énormément de temps à caractériser, à la lumière de notre réflexion déjà bien entamée, les enjeux de la parodie OSS 117 et par quels moyens elle les atteint ou non. Puis, une fois la parodie analysée, nous pourrons prendre un petit peu de hauteur par rapport à celle-ci et voir en quoi ses particularités nous en disent plus sur la parodie en général. Enfin, nous pourrons comprendre quel impact peut avoir la parodie, notamment par le mode de rapport au passé qu'elle présuppose, sur le succès, voire plus, d'un film. Tout d'abord, essayons de donner quelques informations sur le film. OSS 117, Le Cairn d'espion est un film sorti en 2006 et réalisé par Michel Hazanavicius, que l'on connaît aussi notamment pour La Classe Américaine ou The Artist. Il adapte de façon très libre la licence OSS 117, connue pour être, en livre comme en film, l'incarnation du James Bond français. Il est difficile de montrer le côté culte de ce film. Comme beaucoup d'entre eux aujourd'hui, il ne fut pas un succès particulier au box-office à sa sortie, avec environ 2 millions d'entrées. C'est par la suite, et notamment par internet, que le film passa d'un petit succès en salle à un film dont les répliques sont connues d'une bonne partie d'une génération donnée, et qui sont tout autant diffusées sur les réseaux sociaux que celles de Kaamelott par exemple. Si l'on devait définir OSS 117 par rapport aux objets parodiques étudiés précédemment dans l'émission, je dirais que c'est une parodie à la fois très classique, mais qui utilise justement tous les outils classiques que l'on a vu précédemment, conjointement et de façon extrêmement poussée. Bien sûr, et vous en avez l'habitude, il n'est pas question dans Parodienne Rhapsody de faire une liste exhaustive de tous les éléments qui ont un attrait plus ou moins référentiel dans le film. Mais ici, force est de constater que ce nombre est impressionnant, témoignant d'un travail fou de toute l'équipe pour que la parodie ne soit pas utilisée comme un genre facile. En réalité, je pourrais faire un parodienne sur toutes les scènes du film ou sur chaque aspect de celui-ci. On va donc essayer cependant de donner les grandes directions parodiques du film, tout en parsemant cela de quelques éléments particuliers que j'ai trouvé étonnants. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs objets parodiés qui se côtoient dans le film, ce qui m'est intéressant pour voir, encore une fois, que la parodie ne s'adresse pas forcément à une œuvre en particulier. Bien évidemment, la parodie évidente qui vient directement à l'esprit est celle de James Bond, notamment à travers l'interprétation de Hubert Bonisseur de la Batte par Jean Dujardin. À la manière de Kaamelott, et c'est assez rare pour le souligner, le jeu d'acteur est ici un porteur extrêmement riche de la dimension parodique du film. Dujardin évoque alors par ses mimiques et ses intonations, au-delà même de toute ressemblance physique, à de nombreux moments le fameux agent britannique, notamment par l'interprétation de Sean Connery. Bien sûr, le jeu d'acteur est ici mêlé à un tout de mise en scène, de costumes, de plans, de narration, qui fait que la parodie est aussi portée par tout cela. Peut-être est-ce aussi un passage obligatoire lorsque l'on s'attaque à la parodie d'un film d'espionnage, puisque tant dans James Bond que dans les films d'origine OSS 117, qui sont d'ailleurs littérairement premiers par rapport au James Bond de Fleming, le cœur du film reste ce personnage d'espion. On remarque d'ailleurs que au-delà de Connery, on retrouve aussi une inspiration du côté d'Eddie Constantine, l'acteur de OSS 117, dans les années 60. Au-delà du jeu et bien évidemment du casting, on remarque cependant que James Bond n'est pas l'objet principal de la parodie, et c'est sûrement là où la finesse du film se retrouve le plus. Il me semble intéressant de dire, à ce stade-là de l'épisode, que le réalisateur lui-même ne parle pas de parodie pour décrire ce film, mais plutôt de comédie, de détournement. Si il n'est pas étonnant d'entendre Azanavicius préférer la notion de détournement, il est certain que cette nuance a un vrai sens. En effet, on ne l'a peut-être pas assez dit dans cette émission, mais la parodie au sens strict ne correspond qu'à assez peu d'objets que j'ai traités dans ce podcast. Spaceballs, par exemple, est ce qu'on entend classiquement par parodie au cinéma. Je préférais assez rapidement à cette notion stricte de parodie une vision plus large d'objets parodiques différents dans leur nature, mais partageant un mécanisme commun, qui vise à transformer un objet en un autre, à la fois totalement différent dans ses enjeux, mais qui reprend une part de son essence. En ce sens, évidemment que OSS 117 est un objet parodique. Mais la nuance, je pense, qu'a voulu apporter le réalisateur, c'est de dire que ce film est globalement un pot-au-feu parodique, d'une complexité tout autre que le simple travestissement de code d'un film particulier. Le mot détournement montre alors toute son efficacité encore une fois. Un détournement, définitionnellement, c'est modifier la destination initiale d'un objet. Et ici, il s'agit d'un déplacement avant tout temporel. En effet, OSS 117 est à bien des égards un film des années 50-60, fait par une équipe contemporaine et pour un public contemporain. Et c'est particulièrement là que toute l'équipe du film a été mobilisée pour reproduire un style propre à celui de ces années-là. Dans le film, cela se perçoit par exemple avec la musique, qui est un travail de Ludovic Bourse avec le Métropole Orchestre. On retrouve alors l'utilisation de musiques très iconiques avec des thèmes qui caractérisent chacun des personnages, mais aussi les ambiances, allant jusqu'à coller au déroulement des scènes, utilisant la richesse des genres du jazz et de la bossa nova pour exprimer l'ambiance de la scène. A noter que cette idée de faire coller la musique aux événements du film et notamment au coup de théâtre s'appelle le Mickey Moussing et c'est un prolongement du rôle initial de la musique dans les films, à l'époque où l'orchestre jouait lors de la représentation. La musique n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de toutes les techniques et de toute l'esthétique que l'équipe s'est évertuée à reproduire de façon la plus fidèle possible. On peut penser au moment en voiture, tourné à la manière de l'époque avec un ventilo, l'intégration de flashbacks, les transitions en split screen, la scène sous l'eau, le passage en nuit américaine, etc. On sent un vrai travail de condensation des codes de tout un cinéma d'une certaine époque et qui dépasse bien largement le travail habituel de costumes et de décors seulement. Dans les mouvements de caméra, par exemple, on a l'utilisation du zoom, aujourd'hui plus que désuète, mais qui était monnaie courante à l'époque, pour réduire les coûts notamment. De même pour l'utilisation de stock footage, qui sert en plus à renforcer le cachet authentiquement désuet de l'œuvre. Les exemples sont nombreux. Le vice a été poussé tellement loin que dans le matériel utilisé, et notamment dans les spots de lumière, on a repris des éclairages de l'époque, pour justement faire de l'image du film un vrai porteur complet de cette esthétique. La seule chose qui trahit le film est le côté assez lisse et sans grain particulier de l'image, qui nous rappelle à chaque instant que nous sommes dans un film qui ressemble, mais qui n'est pas des années 50-60. Et je pense que c'est voulu, tant il ne faut pas oublier que la dimension ici d'hommage, ou plutôt de reproduction, n'est qu'un aspect de la relation passée que présente OSS 117, projetant un spectateur contemporain, mais n'oubliant pas son œil de personne du XXIe siècle. Si l'on prend par exemple la question des remarques racistes de notre héros, le film est fondamentalement contemporain dans la manière où il met clairement en scène la gêne qu'entraînent ses remarques aux autres personnages, et notamment à l'Armina. De manière générale, le film montre qu'il a conscience d'être contemporain. Cette conscience est particulièrement présente dans deux représentations. Si l'hommage est le plus souvent assez peu appuyé, puisque reprenant des pratiques cinématographiques de l'époque plus que des icônes, il arrive qu'il soit plus marqué et nous apparaisse clairement. Mais c'est surtout par le clin d'œil que l'on va avoir cette conscience, et là, c'est souvent très subtil. L'obsession du personnage principal pour le président Coty, par exemple, est une mise en avant du contexte politique français de l'époque juste assez forte pour qu'elle ne soit pas totalement naturelle. Ainsi, l'économie de moyens est travaillée juste assez pour qu'elle se voie et qu'elle en devienne un effet comique du film. C'est tout l'aspect nanardesque assumé de l'œuvre dont il est question. Utilisant ce cadre qui reproduit en certains points un style défini, le film se permet alors en toute finesse de modifier légèrement certains points pour que cela soit drôle, comme si le film n'était pas à la hauteur de lui-même. Hubert est alors un personnage qui représente totalement le décalage qu'incarne ce film, puisque s'il est censé être ce grand héros du bien, son comportement cavalier et son incompétence flagrante créent ici le décalage dans un univers de personnages tous bien plus sérieux, à l'exception de certains. C'est ici une des grandes forces du film que de faire ressortir le ridicule de certains personnages par contraste avec tout un univers construit qui tient debout. Bon, reprenons tous les points qu'on a vus, car là, clairement, on a affaire à un film qui est très bien ficelé et qui possède de nombreuses directions en son sein. Ce que l'on peut dire d'OSS 117, c'est qu'il réutilise des techniques et des pratiques de cinéma de l'époque 50-60, allant jusqu'à des hommages plus appuyés à tel ou tel réalisateur ou à tel ou tel film. Mais la dimension hommage n'est que le décor où le film construit l'humour, des effets spéciaux volontairement désuets au retournement de situations grotesques, en passant par le racisme du héros. Là où dans The Artist, autre film du réalisateur, les héros et globalement le film sont à la hauteur de leur passé, ici il est certain que le regard vers le passé fait volontairement plus mal, avec une époque qui nous apparaît comme cinématographiquement rudimentaire et politiquement incorrecte. La finesse du film est alors de réussir à la fois à célébrer une époque, mais aussi à la critiquer, utilisant le double sens du concept même de désuet, qui peut être le désuet séduisant ou le désuet ringard, voire hors de propos. Face à cette relation au passé, nous pouvons aborder l'autre élément que je souhaitais traiter dans cet épisode, à savoir si le genre parodique assumé du film a pu ou non être un moteur pour qu'il obtienne le statut qu'il a aujourd'hui. En effet, on pourrait aisément penser que non. Dans les premiers épisodes de l'émission, nous traitions de la relation entre parodie et spectateur, et il apparaissait clair que la parodie était un genre exigeant puisque demandant de connaître ce à quoi il était fait référence parfois de manière très légère. Par exemple, lorsque Kaamelott décide de reprendre mot pour mot un dialogue célèbre du film Heat. Or ici, avec OSS, on a en apparence un paradoxe. Le film fait appel à un imaginaire et un cinéma que le corps de cible, d'un point de vue marketing, n'a pas connu. On pourrait penser que OSS 117, qui d'ailleurs reprend une licence qui est tombée dans l'oubli, s'adresse et ne touche réellement qu'une catégorie de spectateurs très spéciale, spécialiste de cinéma, et capable de reconnaître lorsque par exemple on imite le style de cadre d'un réalisateur ou la manière d'éclairer d'un chef-op. Cependant, on l'a bien vu, il n'en est rien. On peut alors mobiliser une série d'explications à la fois en lien avec le statut de la comédie en France, mais aussi avec des particularités de ce film, pour comprendre tout cela. Déjà, il est important de préciser que OSS 117 a avant tout un statut de film culte pour ses répliques. En effet, il y a une obsession assez française de voir la comédie seulement selon un prisme particulier qui est celui de la réplique, de la petite phrase qui fait mouche et qui fait rire tout le monde. On l'a bien vu avec La Classe américaine, Azanavicius est le roi de la réplique et clairement l'interprétation aux petits oignons du jardin ne fait que renforcer un script déjà à mourir de rire. Or, comme on l'a vu, OSS 117 est une parodie qui se trouve presque partout, sauf dans le script, contrairement à la majorité des autres parodies qui sont bien plus textuelles. Le scénario est vaguement inspiré de livre OSS 117 et reprend certaines grandes lignes de James Bond, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec un Life of Brian par exemple, ou même avec un Spaceballs, qui reprennent les directions scénaristiques majeures des œuvres qu'il parodie. Le script en soi fait de ce film de la comédie, plus que de la parodie, jouant sur la bêtise ou l'immaturité du personnage de Jean Dujardin, avec ainsi une portée référentielle réduite. Et en soi, cette portée référentielle réduite, c'est aussi ce qui fait la particularité du film. Le film n'est pas une parodie précise d'un film ou d'un genre, mais d'une époque de cinéma donnée, et donc fait appel à un ensemble de techniques qui caractérisent notre imaginaire de ce qu'est le cinéma de cette époque-là. On n'a pas besoin d'être spécialiste de cinéma, par exemple, pour reconnaître un style vestimentaire ou l'image produite par une nuit américaine, sans forcément pouvoir décrire le processus ou le caractériser. Peut-être que quand on montrera ce film plus tard, ça sera moins évident, mais notre culture cinématographique est faite de telle sorte qu'aujourd'hui, on a tous un aperçu même très flou de ce qu'était une image cinématographique dans les années 50-60. J'ai personnellement appris énormément de choses sur les hommages que rend ce film en préparant le podcast. Comme on l'a vu, ce film, et c'est peut-être la première fois que ça arrive dans Parodiane, propose un rapport au passé qui est plus que jamais contemporain. En général, la dimension hommage d'une parodie vise à célébrer un cinéma, une époque, ce qui fait que beaucoup de parodies, même parfois très caustiques, sont aussi très nostalgiques. L'exemple parfait serait Homme Chantium, vu dans un autre épisode. Ici, c'est un passé qui est critiqué, moins sous ses aspects cinématographiques que sur tous les autres, présentant une France colonialiste, prenant de haut le monde arabe dans un film qui, certes, reprend les techniques de l'époque, mais qui, de par le caractère profondément moderne de l'image, très peu de grain, tend à fatalement les rendre désuets, ou encore dans un film où la gestuelle et le jeu d'acteur va reprendre jusqu'à l'extrême le côté un peu impressionniste, avec notamment le rapport au tri, et qui nous saute aux yeux aujourd'hui comme du surjeu. En bref, la parodie à la base dans son sens le plus strict ne peut servir le succès d'un film seulement si le film parodie une œuvre qui est déjà culte. Mais OSS 117 déroge à cette règle, notamment car beaucoup l'aiment en tant que comédie et non en tant que parodie, mais aussi car les préalables sont beaucoup moins exigeants que dans d'autres parodies, faisant appel à un certain imaginaire partagé du cinéma et à des connaissances rudimentaires de l'histoire de France, dans un film qui certes se tourne vers le passé, mais qui reste fondamentalement ancré dans le XXIe siècle. Ainsi, derrière une parodie très classique se cache une œuvre qui a su considérer le genre parodique comme quelque chose de sérieux, capitalisant moins sur l'univers des films d'espionnage que sur un héritage commun partagé, à la fois en termes de cinéma et d'histoire. Cependant, j'ajouterais que la parodie, de même que les hommages, ne sont ici presque qu'un agrément, comme un décor qui laisse toute la place au talent humoristique de Hazanavicius et de Dujardin, mais aussi de tous les autres acteurs et actrices qui permettent à ce Hubert Bonisseur de la Batte d'être au paroxysme du ridicule, dans un film hilarant, qui représente parfaitement l'adage qui dit que ce n'est pas parce que l'on est sérieux que l'on se prend au sérieux. S'il y a une chose à retenir, c'est bien que la comédie est un genre qui peut apparaître comme facile, mais qui en réalité ne l'est pas, et qui requiert de l'apprendre à être le plus grand sérieux, ce qui aboutit à des chefs-d'œuvre comme celui-ci, qui ont su obtenir un grand succès populaire et critique. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté, j'espère qu'elle vous a plu. Nous on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parodien Rhapsody. En attendant, abonnez-vous à l'émission sur iTunes pour n'en rater aucun. Réagissez, commentez, ça fait toujours super plaisir. Merci à Radio Kawa qui produit toujours cette émission. N'hésitez pas à aller voir les autres podcasts du site. D'ailleurs, je vais vous laisser, comme d'habitude, avec quelques petites publicités qui vous permettent de découvrir tout le catalogue magnifique de cette web radio. Voilà, à très vite.
Philippe, je sais où tu te caches.
Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film. Je me demande bien comment ils peuvent faire ça.
Eh dis donc, Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y'a plus de péloche. Y'a tout sur Cinoche et le monde de l'audiovisuel, avec des super chroniques, des super discussions et des super invités, Giboite.
Oh là là, Emmaël, où est-ce qu'on peut entendre ça?
Une fois par mois sur Radio Kawa, Giboite.
Allez Marcel, au studio.
Y'a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel.
Présenté par Maël et Giboite.
Une fois par mois
sur Radio Kawa.
Dans TV Nerd, je vous donne rendez-vous avec mes chroniqueurs pour passer en revue la vie des médias audiovisuels. Télé, radio, internet, tout y passe. Au programme de chaque épisode, retrouvez un condensé de l'actualité des médias, un bon gros dossier qui déboîte et nos recommandations de programmes à consommer sans modération. TV Nerd, c'est en direct un dimanche sur deux sur Radio Kawa.